Ces livres qui ont changé notre vie. Nous en avons toutes et tous déjà fait l'expérience. Peut-être qu'à cet instant même, un titre vous revient en mémoire, accompagné d'un souvenir précieux. Mais qu'en est-il pour une écrivaine ou un écrivain ? En quel sens l'écriture commence-t-elle par un acte de lecture ? Et comment nos lectures contribuent-elles à forger notre écriture, nos convictions ? Chaque semestre, la Maison des Arts et de la Création et la Bibliothèque de Sciences Po accueillent dans l'antichambre de la Bibliothèque Saint-Thomas la ou le titulaire de la chaire d'écriture. Elle ou il y présente sa petite bibliothèque d'une dizaine d'ouvrages particulièrement saillantes pour donner à comprendre et à partager sa trajectoire de vie, son regard et son processus d'écriture. Au printemps 2024, l'écrivain Yannick Hennel était le 11e titulaire de la chaire d'écriture. Dans ce cadre, il a dispensé deux ateliers d'écriture de création auprès des étudiants et a participé à différents échanges et rencontres. Yannick Hennel est l'auteur de nombreux romans et essais, dont Le Trésorier Payeur, publié en 2022, ou Bleu Bacon, en 2024. Son œuvre, nourrie par le désir de déchiffrer passionnément le monde, tisse petite et grande histoire, écriture et peinture, pour donner corps et voix à un regard singulier qui ne cesse de s'émerveiller devant l'énigme du langage.
Je ne sais pas quels sont vos rapports avec les écrivaines et les écrivains, mais moi j'ai des rapports d'amour. Beaucoup de gens qui écrivent ne se rendent pas compte que ce qu'ils écrivent, ce n'est pas la vie, c'est du langage. Le langage a une forme d'autonomie, en fait, c'est ça la poésie. Quand j'ai découvert Bataille, il ose penser que le cœur de l'économie, c'est peut-être pas l'épargne, mais le cœur de l'économie, c'est peut-être la dépense. La dépense somptuaire.
La petite bibliothèque accueille Yannick Hennel.
Merci, ça y est, j'ai le trac. Grand merci. Je ne vais pas parler de l'expérience qui m'a été offerte ici, qui m'a été donnée de faire, mais quand même, je peux vous dire que ça s'est super bien passé et que je suis comblé parce que précisément les notions dont Esther parle, celles d'intimité, de partage, pour moi sont constitutives de toute parole et de toute écriture. Je pense qu'il n'y a pas d'écriture ni de parole, évidemment, adressée. Ça va de soi pour la parole, mais pour l'écriture, je pense que c'est quelque chose qui relève presque d'une ontologie de la littérature, de l'être de la littérature. Quelque chose doit se donner. Quelque chose relève d'une générosité de la parole. Et donc, se retrouver ici avec des étudiants dans un contexte, je dirais, de gratuité, parce que c'est aussi, on parle, on écrit, je dis pas pour rien, mais pour aller à la recherche de ce qu'il en est d'écrire. Et pour moi, l'idée que ça n'est pas de fonction autre que l'accomplissement personnel, c'est très très précieux, enfin, ça échappe à toute demande. Il m'est arrivé quelque chose quand j'avais 14 ans et demi, 15 ans, qui peut paraître banal, mais qui a changé ma vie, comme vous le disiez, c'est que j'ai lu ceci. J'étais enfermé dans un pensionnat militaire pendant 3 années. Je n'en sortais que l'été, puisque mes parents habitaient en Afrique. Et ce pensionnat militaire, c'était à La Flèche, vous voyez, dans la Sarthe. Et un jour, je tombe sur ces phrases. J'ai embrassé l'aube d'été. Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte. Les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit. Un peu plus loin dans cette page, il y avait ceci. En haut de la route, près d'un bois de laurier, je l'ai entouré avec ses voiles amassées, et j'ai senti un peu son immense corps. Il s'agit d'une déesse, et il s'agit d'un enfant quasi dionysiaque, qui va réveiller quelque chose qui n'existe pas, qui est la vérité même, qui est la déesse vérité. Pas la déesse de la vérité, mais la déesse vérité. C'est une page de Rimbaud dans Les Illuminations. Et je me suis mis à apprendre par cœur. Vous avez vu que ma mémoire est un peu défaillante depuis, mais j'ai plus 15 ans. Je me suis mis à apprendre par cœur les 34 illuminations. Et pour m'imprégner, pour m'infuser de quelque chose qui s'appelle la littérature ou la poésie, mais dont je me fichais un peu à l'époque. Ça me semblait un langage comme ça, sans nom. Et s'infuser des livres, apprendre par cœur des textes, se rendre disponible à ce qui vient jaillir dans la fulgurance, c'est sous ce signe que j'ai placé ma vie. Enfin, ça a été une vocation non dite, une vocation invisible, une vocation sans pacte, sans signature, une vocation sans personne, à laquelle j'ai essayé de me tenir. Et c'est comme ça que je me suis mis à peu écrire des livres, donc en lisant d'autres. Enfin, c'est d'une... Ça me paraît être une chose assez commune, en fait. Et voilà, ça a commencé pour moi par la poésie, c'est-à-dire Baudelaire, bon, Rimbaud, Baudelaire, et surtout Lautréamont, que je n'ai pas mis dans la liste parce que j'en parle tout le temps, mais je vous en dis deux mots, Les Chants de Maldoror, qui est, je dirais, le versant démoniaque, voire satanique, de Rimbaud. Le Rimbaud que j'aime est beaucoup plus printanier, il est beaucoup plus voué aux amours fraîches, à quelque chose qui est au-delà de l'enfer. Dans Une saison en enfer, il ne s'agit que d'une saison. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autre saison. Pas toute, mais celle d'après, en fait. Et l'autre saison, pour moi, c'est celle qui n'est pas dans le calendrier, qui ne relève ni même du printemps, comme chez Rimbaud, ni même de l'automne, ni de l'hiver, ni de rien du tout, ni de l'été. Mais... une saison peut-être au paradis, alors je ne sais pas, mais une saison entière dans le langage, une saison qui n'en finit pas, oui. Comme une nuit d'amour au fond, mais qui durerait une vie. Et alors, je suis allé, après avoir été comme ça, avoir eu le choc dans cette petite bibliothèque de section militaire. D'ailleurs, j'ai volé le livre, je voulais vous l'apporter, mais j'ai pu retrouver dans mon barda. Je suis allé de merveille en merveille. Parce qu'un livre en appelle un autre. Et puis, dès qu'on lit des choses sur Rimbaud, il y a Jean-Pierre Richard qui vous dit « Oui, mais alors, c'est parce qu'il a lu Victor Hugo, il a lu L'Homme qui rit. » Alors, j'ai lu L'Homme qui rit. Et alors, à ce moment-là, etc. Puis, je suis tombé sur Moby Dick. Très vite, donc à 16 ans. Et c'est devenu mon livre de chevet pour une quarantaine d'années, je dois dire. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous résumer Moby Dick. Vous savez, on sait tous que c'est l'histoire d'une chasse à la baleine. Sauf que ça parle aussi d'autre chose et ça parle de manière plus spirituelle de ce qu'il en est, de l'amour dont on est capable pour une chose qui nous dépasse. Non pas que la baleine blanche, non pas que Moby Dick soit une incarnation de Dieu, je ne le crois pas, ou alors tout autant de l'absence de Dieu, qui est tout aussi miroitante et tout aussi blanche. D'ailleurs, par parenthèse, le traducteur, j'aime bien que ce soit dans la traduction de Jean Giono. Et au moment où Jean Giono le traduisait, avec tout un groupe, j'ai compris bien des années après qu'il était amoureux d'une femme qui s'appelait Blanche. Et c'est un amour secret. Et donc je pense qu'il a traduit Moby Dick pour continuer à penser à elle et à l'aimer sans cesse. Bref, Moby Dick, moi ce qui me plaît, c'est pas le capitaine Ahab. Je me souviens tout de suite de quand je l'ai lu la première fois, de mon émerveillement devant la narration elle-même, devant ce bruissement à la première personne, qui est celui d'Ismaël, plutôt Ishmael, puisque c'est avec un H. Call me Ishmael, appelez-moi Ismaël, ou mettons que je m'appelle Ismaël, il y a plein de traductions. Et il se trouve qu'Ismaël, qui est donc le mousse, le matelot qui embarque sur le Pequod, va être le seul rescapé de cet immense massacre de tous les gens qui ont tenté de tuer la baleine et qui finalement sont tués par elle. Et il est le seul à l'avoir aimé. C'est pour ça que je dis que c'est un livre sur la capacité qu'on a à aimer. Il va être épargné par cette baleine. Il y a des pages stupéfiantes. Je vous dis la fin, je sais que ça se fait pas, mais enfin bon, quand même, c'est Moby Dick que je... il y a des pages stupéfiantes là, les 50 dernières pages qui sont haletantes, enfin où on est dans la mer rouge du massacre, enfin ça saigne de partout. C'est assez stupéfiant ce qui se passe sur ce ponton aussi, parce que, comme vous le savez, on chassait la baleine pour en extraire ce qui allait faire l'huile capable de faire des lumières, en fait. Donc, en fait, la quête de la baleine, c'est la quête quasi luciférienne, enfin, de qui consiste à s'approprier ce qui relève de la nature pour créer techniquement quelque chose qui va donner plus tard sur l'électricité, enfin. Et donc on a toute une fable au fond, à la fois mystique, mais aussi sur la perversion de la technique, enfin, tuer des baleines pour s'éclairer, pour éclairer les humains. Et bon, c'est un livre complètement fou poétiquement, enfin, c'est comme si Shakespeare avait écrit un roman pour moi. Et j'ai mis énormément de temps à oser écrire des romans à cause de Melville, parce que je me disais que bah, j'avais honte, quoi, par rapport à... J'ai plus été impressionné par les romanciers anglo-saxons que les romanciers français, disons, j'aime Stendhal, j'aime Flaubert, bon, Proust, je ne l'ai pas mis, mais Proust, c'est un compagnon secret. Mais ce sont des gens comme Herman Melville, pour qui j'ai une dévotion très particulière, et pour ce livre, Moby Dick. Voilà, plus tard, je me suis mis à j'essaye de faire une petite autobiographie lecteur. Plus tard, je me suis mis, en quittant ce pensionnat militaire, à étudier la philosophie. J'ai fait un double cursus, philosophie et lettres en même temps. Donc, je me suis simplifié la vie, comme vous imaginez. C'était à Rennes. La fac de lettres était d'un côté de la ville et la fac d'épistémologie était de l'autre côté. Donc, j'ai passé 3 années dans le bus. Et entre autres, je suis tombé sur un livre. Alors, je sais que c'est mal de parler de lui, mais c'est pour ça que je vais le faire. Sur quelqu'un qui m'a passionné tout de suite, parce que je parle un peu allemand, enfin je parlais surtout allemand à l'époque, qui s'appelle Martin Heidegger, très mal vu, avec raison. Mais il se trouve qu'avec Nietzsche, c'est les textes philosophiques qui m'ont le plus bouleversé, j'ose le mot. Et il y a un livre qui me semble assez lisible, qui s'appelle Acheminement vers la parole, donc je suis content que Sciences Po le possède, ou peut-être l'a acheté exprès, mais. Ah, vous l'aviez, très bien. Je vous le conseille vivement. C'est pas que je m'en sois pas remis, c'est bon, ça va. Mais c'est une méditation tout à fait claire, ce qui n'est pas toujours le cas avec Heidegger, je veux dire, tout à fait claire sur ce qu'il en est de la dimension intérieure de la parole. C'est-à-dire pas la parole de communication, celle que je suis en train de tenir là, devant vous et avec vous. Ça relève de Dichprache, la parole articulée, disons. Celle qui peut même initier une histoire, enfin un mouvement vers l'autre, mais c'est une méditation à partir de tas de textes sur ce qu'il appelle Die Sage, dans mon souvenir, étant une espèce de fable, enfin le fait de dire, quand le fait de dire dans le fait qu'on dise. Là, je fais mon Heidegger là, un peu. Et ces 4 petites conférences qui sont effectivement une méditation linguistique. Très très habité, et quand on se préoccupe d'écrire, de parler, de lire, c'est absolument précieux, parce que je pense que beaucoup de gens qui écrivent ne se rendent pas compte que ce qu'ils écrivent, c'est pas la vie, c'est du langage. Ça change beaucoup de choses, enfin peut-être je le dis de manière malhabile, mais le langage a une forme d'autonomie, en fait. C'est ça la poésie pour moi. C'est comme dans les histoires bibliques de jardin clos, d'hortus conclusus, comme on dit en latin. Il y a quelque chose, il y a une clôture heureuse où on peut s'enfermer pour le mieux. Le jardin des délices, c'est ça. Et pour moi, le langage, quand même, dans mes moments les plus exaltés, et les plus apaisés, j'y pense, le langage, non pas comme au compte-rendu de quelque chose qu'on déchiffrerait seulement dans la vie sociale, mais comme à un lieu qui parle de lui-même, comme faisaient les troubadours, au fond, au XIIe siècle. Enfin, le poème est le reflet de la dame à qui il s'adresse. Donc le poème parle du poème sans cesse. Il est l'amour, enfin, qu'on éprouve. Il n'est pas seulement là pour dire l'amour, il est l'amour. Et dans Heidegger, l'air de rien, avec sa grosse tête, si je puis dire, de philosophante, Eh bien, il est question de ça, et ça m'avait proprement transpercé. Enfin, je m'étais dit quand même que la philosophie nous élargissait, voilà, au sens où un esclave peut être élargi, c'est-à-dire que ça nous rend plus libres. Et j'essaie de trouver une cohérence ou un itinéraire. Il y a quelque chose qui m'a, dans ma recherche personnelle, enfin, qui n'avait pas vraiment d'objet, recherche existentielle, je me suis retrouvé à lire un livre bizarre, parce que ça m'avait été conseillé par... c'était en lisant Wittgenstein, figurez-vous, vous imaginez les soirées exaltantes que j'avais. En lisant Wittgenstein, il parlait d'un livre qui s'appelle Le Rameau d'or, de James Frazer. Je m'étais dit, tiens, c'est quoi ce truc? Et j'avais essayé de le lire en anglais, ça s'appelait The Golden Boat, je crois, je ne sais plus. Bon, je n'avais pas réussi. Alors, Le Rameau d'or, je tiens à dire... notre bibliothécaire me confirme qu'il est épuisé. Le Rameau d'or est un grand livre qui date du début du XXe siècle et qui est un peu le... C'est à travers ce grand livre, en quatre volumes, que s'est créée l'ethnographie. Plutôt l'ethnologie, je dirais, entre ethnologie et ethnographie. Bon, James Frazer est quelqu'un qui a enquêté à travers les civilisations et la documentation qu'il pouvait en avoir sur le fait que les sociétés sont fondées sur la mort d'un roi. Et évidemment, la souveraineté qui ne cesse de se transmettre. Et alors, j'avais été saisi par une fable qui continue à me poursuivre, à tel point que j'en ai même fait un petit film un jour. Je travaillais dans une école de cinéma. J'ai eu ce privilège de pouvoir faire un court-métrage. C'est la fable du roi du bois. Je vous en parle pendant 2 minutes parce que ce n'est pas sans rapport avec certains écrivains que je me suis mis à lire par la suite, comme Georges Bataille, qui étaient eux aussi obsédés par cette histoire. Comme vous le savez, la souveraineté politique, enfin, ici on étudie aussi principalement quelque chose qui a à voir avec le politique, ou la politique, disons le politique. Le politique et la souveraineté même sont fondés sur soit l'élection, c'est-à-dire le fait d'aller voter pour quelqu'un qui va nous représenter, soit sur la transmission. La souveraineté se transmet. Les monarchies sont fondées là-dessus. Mais il se trouve que James Frazer, c'est comme ça qu'on prononce, a enquêté sur d'autres modes de souveraineté et il en a trouvé dans bien avant la fondation de l'Empire romain, bien avant les vieilles royautés romaines, il a trouvé un exemple à Némie, à 50 km de Rome. Vous savez, dans le Latium, il y a toute une petite région qui est faite de lacs, des cratères d'anciens volcans. Enfin. C'est là notamment que le pape a sa résidence d'été, Castel Gandolfo. Ça, voilà. Et juste à côté, il y a Némie. Et à Némie, donc il y a un lac, où il y avait un sanctuaire de Diane, dont il y a encore des restes archéologiques. Et donc ce lac est réputé être le miroir de Diane. Et Diane, chez les Romains, chez les Latins, disons, avant Rome, n'était pas seulement la déesse de la chasse, mais celle des réfugiés. Et vous savez que la politique romaine est quand même fondée sur les parias, en fait, sur des gens de rien qui vont fonder Rome. Rome n'est pas du tout fondée aristocratiquement, mais c'est fondé comme ça, c'est un bricolage au fond. Et voilà, il y avait une légende qui courait, qui racontait là-dedans, qui m'a fasciné. C'était que dans ce lieu où se cachaient les voyous, les tueurs, les parias, et qui se mettaient donc sous la protection de Diane, qui échappait à la loi, puisqu'il y avait le sanctuaire de Diane, eh bien, il y avait un prêtre, le chef des vauriens, qui était l'amant mystique de Diane. Il était le roi du bois. Et il suffisait pour devenir le roi du bois de tuer le roi du bois. Donc en fait, la souveraineté se fondait sur le meurtre. Je ne sais pas pourquoi je raconte ça, c'est pas super vertueux. Mais une souveraineté fondée sur le meurtre, vous voyez, c'est le renversement même, c'est la perversion de toute élaboration démocratique, on dirait aujourd'hui. Et donc la figure de ce roi du bois, par conséquent, était la figure même de l'intranquillité, comme dirait Pessoa, d'une inquiétude fondamentale, puisqu'à partir du moment où vous deveniez roi, vous pouviez n'en avoir plus que pour quelques minutes, puisque n'importe qui dans cette forêt, à la croisée des arbres et des chemins, aller vous planter une dague pour devenir à son tour roi. Donc il y a une espèce de folie de la souveraineté fondée sur la mort. Voilà. C'est pour ça que ça a fasciné Bataille, qui s'identifie à cet instant sacré où on est disponible à une mort qui va venir. Bon, bref, je vous parlais de Bataille, du coup, qui est quelqu'un dont j'ai plus encore que Proust. Comme je vous l'ai dit, moi, je n'ai cessé de m'abreuver comme un fou, enfin, par goût de la solitude, mais aussi par désir insatiable de quelque chose qui pour moi n'avait pas de nom, que je cherchais, enfin, et qui s'est concrétisé peu à peu dans la pensée et l'écriture. Et donc Proust ne m'a pas suffi, en fait. À la recherche du temps perdu, c'est pas rien, on peut y passer une vie. Ça m'a comblé éperdument, je l'ai lu plusieurs fois, et c'est quelque chose qui relève de l'absolu, à la fois de la violence des sentiments tels qu'ils sont exprimés, mais aussi de la délicatesse, hein, d'un monde entièrement fondé sur la nuance de la nuance. Mais quand j'ai découvert Bataille, les 12 volumes de Bataille m'ont excité, en fait, considérablement. Pas seulement parce que Bataille est la version, je dirais, un peu noire, voire porno de Proust, mais parce que c'est quelqu'un qui peut être fasciné par le Marquis de Sade, par les grottes de Lascaux, par l'érotisme le plus scabreux, déclaré comme tel, et par des traités d'économie. Et moi, cette ouverture d'esprit, cette manière de s'engager tout entier, sans hiérarchie, dans toutes les catégories de l'existence, d'être tout aussi sérieux je dirais, dans la perception écrite du bordel que dans l'étude de ce qui s'est passé à Lascaux. C'est le premier à avoir écrit sur Lascaux, enfin, quand on a pu voir enfin quand cette grotte a été inventée, comme on le dit, c'est-à-dire découverte pendant la Seconde Guerre mondiale. Bah ça m'a plu, je me suis retrouvé, non pas dans son caractère pornographique, mais plutôt dans l'éventail, enfin, dans l'éventail de ses passions, voilà, dans une œuvre fondée sur la passion. Et il se trouve que le livre dont j'aimerais vous parler là est un livre un peu ingrat, pas du tout excitant a priori, il s'appelle La Part maudite. Mais c'est un livre d'économie politique. Je l'ai choisi aussi parce que on est à Sciences Po, donc je me suis dit quand même peut-être ça peut vous intéresser. C'est un livre complètement hétérodoxe qui ose déclarer, on est en 1949, donc c'est après le plan Marshall, vous voyez, après l'immense hécatombe occidentale de la Seconde Guerre mondiale. Il ose penser que le cœur de l'économie, c'est peut-être pas l'épargne. Épargne sur laquelle on produit, en fait, l'épargne productiviste. Mais le cœur de l'économie, c'est peut-être la dépense. La dépense somptuaire, qui rejoint un peu ce que je vous disais de mon expérience ici, purement d'essayer de s'approcher de quelque chose qui serait gratuit pour nous, et qui, étant gratuit, nous enrichirait plus que ce qui est compté et mesuré. Et donc Bataille fait partie de ces gens dont la tête et ultra littéraire et poétique, mais également travaillé par l'anthropologie. Et il va dans ce livre, La Part maudite, essayer de voir, d'examiner le fait qu'il y a des civilisations qui ont existé, beaucoup en Amérique du Sud, beaucoup en Amérique latine, qui étaient fondées justement sur la dépense somptuaire. Il va aller vers les Aztèques, notamment, et les Incas, et vers la notion de potlatch. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le potlatch. C'est une manière de se dessaisir de sa richesse. Par exemple, dans des conflits armés, mais là je parle de civilisation vraiment très reculée, enfin, ce qu'il appelle lui l'Amérique perdue, il y avait des manières de se battre où on n'engageait pas du tout d'hécatombe humaine, mais on se défiait par don et contre-don. Le potlatch, ça consistait, pour impressionner l'ennemi, à détruire des richesses qu'on avait mis des années à faire fructifier. Et on montrait par une espèce d'arrogance de la dilapidation à l'ennemi qu'on était capable de tout. Ce qu'on avait mis 10 ans à élaborer, on le détruisait devant l'ennemi, pour le tétaniser. Et l'ennemi faisait pire. Résultat, le combat s'engageait comme ça, dans une espèce de rivalité de richesse qui était ruinée. Mais le sang ne coulait pas. Bon, c'est un des exemples que Bataille essaye de méditer à un moment où le capitalisme, je dirais, de nature protestante, a pris le dessus sur toute autre manière de compter, c'est-à-dire une épargne qui pour lui va de manière négative avec une manière de concevoir les choses, puisque Bataille est du côté de l'exubérance, enfin, érotique, de la dépense sexuelle, de la dépense comme cœur du langage, et peut-être d'une approche de la poésie qui serait tout entière travaillée par l'idée d'un absolu inépuisable. Voilà. Alors il se trouve que j'ai une passion grandissante, j'essaie d'articuler comme je peux, j'ai une passion grandissante là à plus de 50 ans pour Marguerite Duras, que j'ai lu jeune, mais j'avais pas bien, je m'étais pas incorporé à ce point-là son génie en fait. Non pas qu'on puisse s'incorporer le génie d'un autre, il s'agit pas de l'absorber, mais c'était de me rendre disponible modestement à ce qu'elle écrit. Et au fur et à mesure, en lisant de plus en plus, je m'aperçois que je l'aime quoi. Je sais pas quels sont vos rapports avec les écrivaines et les écrivains, mais moi j'ai des rapports d'amour, enfin. Avec des gens qui sont morts, que je ne connais pas, mais qui sont pour moi les plus vivants. Enfin. Et Marguerite Duras, c'est vraiment un amour. Même les choses qui m'agacent en elle me touchent, enfin, me font rire. Son côté comme ça, un peu divinatoire, enfin, même manière d'humour étrange, enfin, excessif. Et parmi tous les livres, j'en ai parlé aux étudiants cette année, on a même travaillé sur certains extraits de ce tout petit livre qui a l'air de rien, qui s'appelle « Écrire ». Qui est un livre prodigieux parce qu'il a d'abord été dit par Duras dans un documentaire de Benoît Jacquot, qui était son assistant pendant longtemps, puisqu'elle a beaucoup fait du cinéma. Et vers la fin de sa vie, elle est filmée un peu n'importe comment. Je pense que ça s'est fait. Il avait une caméra avec lui, mais c'était chez elle à Nofle-le-Château. Ils ont dû décider de ça au dernier moment parce que franchement, le film, il est. On ferait tous mieux, on ferait pas mieux, mais. Ce qui est très beau, c'est que c'est un film qui est tremblé, comme elle. Elle est toute petite, ça commence, vous avez ça sur YouTube, hein, c'est gratuit aussi. Ça commence, elle joue au piano, avec ses doigts tout crispés. Elle est toute petite et merveilleuse, on dirait une reine de la Renaissance, comme ça. C'est tout juste si elle n'a pas la fraise. Enfin. Elle joue, et puis elle se met à parler dans un monologue étourdissant dont elle a le secret, enfin, un dialogue avec elle-même. Et elle parle de la solitude, du rapport entre la solitude, l'alcoolisme aussi, qui chez elle a pris la place de Dieu, dit-elle, et la maison, où elle a longtemps vécu seule, où elle virait ses amants, dit-elle. Enfin, c'est assez beau, enfin, la manière dont elle conçoit l'écriture comme étant extra-conjugale, si je puis dire, extra-territoriale. Il faut qu'il n'y ait personne, en fait. Il faut tuer toute autre passion. Donc c'est une position très radicale, mais absolument fascinante. Et la nuit, ce qu'elle appelle la nuit de l'écriture. Enfin, et je pense que le niveau, j'allais faire ça, mais ce n'est pas nécessairement vertical, enfin, c'est immanent, donc ça peut être transversal, latéral. Mais le niveau où se place l'exigence d'écrire et de lire et de penser chez Duras, me plaît énormément parce que là aussi il y a un désir de tout écrire, de tout ressentir, de tout accueillir. Et j'ai relu un peu L'Amant parce que je fais un cours sur écrire une histoire d'amour et j'ai pu en lire aux étudiantes et aux étudiants, et c'est un livre proprement prodigieux, enfin, qui a osé écrire une chose pareille, enfin un livre pareil. Et je ne parle pas que de son aspect sulfureux ou érotique, c'est une mise à nu de soi, de la décomposition d'un visage, c'est ça le vrai sujet de la vie de Duras, la manière dont elle est devenue vieille, dit-elle, à 15 ans. Le temps lui est donné tout entier d'un coup à 15 ans, et elle devient, je ne sais pas, enfin, Je comprends qu'elle soit devenue un peu mégalomaniaque. Enfin, c'est une créature quasi biblique, enfin, dont toutes les temporalités sont tombées sur elle. Elle s'ouvre comme ça géographiquement entre l'Indochine et sa maison folle de Neufle-le-Château, au cœur ardent et nocturne de ce que peut être l'aventure d'écrire et ce que doit être l'aventure d'écrire, c'est-à-dire ne pas se satisfaire des petites histoires, de ce qui vient, ne même pas se satisfaire de son propre talent, le mettre à mort pour trouver encore plus que le talent. Bon, chez Duras, c'est vraiment, elle vous sa vie à ça, on n'est pas obligé, hein, mais chez elle, il y a ça, voilà. Dans cette liste... peut-être trop chargé, je suis en train sans doute de déborder, mais je vais aller vite. J'ai tenu à faire figurer, avant de vous parler de la peinture, qui est l'autre passion de ma vie, et sur laquelle je suis en train de terminer un cours, je ne sais pas comment le nommer, qui s'appelle « Dire la peinture », où on regarde passionnément des peintures pendant 2 heures. Ce n'est pas rien d'être face à une reproduction pendant 2 heures. Et avec les étudiants, on faisait ça, je trouvais ça merveilleux. Essayer de mobiliser en soi des mots pour dire cette chose muette. Avant de vous en parler, je voulais quand même vous parler de Cristina Campo, qui est une femme pour laquelle j'ai une grande dévotion. Pour moi, c'est un des secrets les mieux gardés de la littérature, mais je suis très content de vous le dévoiler en exclusivité mondiale. Ça s'appelle Les Impardonnables. Et c'est une femme qui a écrit des poèmes mystiques, était très, très chrétienne, très catholique. Mais elle a écrit surtout ce livre, Les Impardonnables, qui est un recueil d'essais sur Borges, Hoffmannsthal, Catherine Mansfield, sur des figures de la grande délicatesse de l'écriture occidentale qu'elle a traduit en italien. Et je ne sais pas comment en parler. Moi, c'est une femme qui incarne à mes yeux quelque chose qui, dans l'écriture, relève de l'insaisissable, de la grâce peut-être. Il y a un mot en italien qu'elle commente abondamment, c'est la sprezzatura. La sprezzatura, c'est quelque chose qui c'est pas un concept, mais ça vient de la Renaissance italienne, du Quattrocento. C'est ce qui désigne, on pourrait dire le panache, mais je trouve que le panache, il y a un côté un peu trop guerrier, un peu trop masculin aussi, je trouve, comme ça, a priori. La sprezzatura, c'est plus féminin. Ça peut être un geste qui coupe le cours ordinaire de l'existence, qui vous fait entrer dans quelque chose qui n'est pas non plus sacré, mais qui relève de la plus grande délicatesse et qui comble esthétiquement et de manière éthique. Voilà. Cristina Campo, si ça vous dit, regardez ça. Moi, je ne cesse de la lire. Elle est très, très bien traduite en français, de sorte que c'est comme... on ne sent pas de... Vous savez, cette chose un peu molle parfois dans des traductions, on lit un auteur anglo-saxon comme ça, on se dit oh, c'est mal, enfin c'est pas terrible en français. Là, c'est merveilleux. C'est de l'écriture qui semble avoir affaire avec le plus beau des artisanats. Je pense que l'art, c'est toujours un artisanat. C'est fait à la main. La littérature, c'est fait à la main. Moi, j'écris à la main. Il y a quelque chose d'une texture soyeuse dans ces textes. Voilà, il y a une. C'est destiné, voilà. C'est destiné à l'inconnu. Dernière chose, donc j'avais prévu de vous parler de 3 livres qui tournent autour de la peinture, mais pas seulement. Il y a un type, je dis type avec une grande tendresse, qui s'appelle Daniel Arras. Je n'ai pas eu la chance de rencontrer, mais j'ai habité pendant longtemps à Firenze, à Florence, pendant 5 ans. Et je sais qu'il était... J'allais tous les jours à l'Institut français, où il y a une merveilleuse bibliothèque, pas aussi grande qu'ici, mais qui était pas mal non plus. Et je sais que Daniel Arras avait été le directeur de l'Institut français là-bas. Et en tous les cas, il est celui qui m'a, par sa lecture, mais aussi on peut l'écouter sur France Culture, ce sont des émissions Histoire de peinture, c'est un livre merveilleux, qui est la retranscription de monologues, d'improvisation, comme ça, c'est un puits intarissable, Daniel Arras, d'improvisation sur des tableaux. Et c'est lui qui m'a initié à quelque chose qui, là, pour le coup, m'a marqué à vie, qui est Fra Angelico, qu'en Italie, on appelle Beato Angelico, puisqu'il a été sanctifié par le pape. Voilà, j'ai, parmi les choses que j'aime le plus au monde, il y a les annonciations, de tout siècle, mais celle de Fra Angelico me semblait plus douce. et me semble d'autant plus mystérieuse que celle, par exemple, qu'on voit au couvent San Marco, est toute exempte, enfin, est toute, comment dit-on ça, indemne du fameux rayon divin qui doit arriver. On sait tous ce que c'est qu'une annonciation. Vous avez sur la gauche, entre depuis le jardin d'Éden déserté et désormais clos, auquel on ne peut plus accéder, et donc l'Ancien Testament. Vous avez sous un portique apparaît un ange face à une jeune femme qui manifestement est la Vierge Marie, enfin, je ne crois pas me tromper, et qui est la nouvelle Ève, donc le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et ce qu'on ne voit pas, qui est l'invisible même, qui est le cœur de la peinture, enfin je crois que la peinture au moins occidentale est là pour nous montrer des choses qu'on ne peut pas voir, c'est l'incarnation. C'est à ce moment où elle devient mère par la parole. Et il se trouve qu'en général, comme vous le savez, il y a ce rayon qui vient, il y a quelqu'un dans les cieux, du côté du jardin au-dessus vide, qui envoie son rayon qui traverse l'ange, et à travers la parole de l'ange, ça arrive jusqu'au ventre de la Vierge. Bon. Et bien là, il n'y a pas de rayon, en Fra Angelico. Et Arras le raconte très bien, Georges Duberman aussi, qui était un de ses compagnons, un de ses amis à la Villa Médicis. C'est toute une génération d'anthropologues, d'historiens d'art, de penseurs, justement, qui mélangent les choses exprès, enfin, c'est beau mélange, et qui sont arrivés depuis d'un savoir qu'on a aujourd'hui, justement un savoir qui est hétérogène, à expliquer des choses et à voir ce qu'on ne voyait pas concernant ces tableaux. Bon, moi, cette absence de rayon m'a obsédé pendant pas mal d'années et ça a donné lieu à une expérience que j'ai racontée lors de la séance d'intronisation, je ne sais plus comment on dit. Intronisation, c'est un peu passage de relais. Intronisation, là, je me vois avec la couronne, ouais, mais c'est pas mal. Je tiens ferme ma couronne. Et bon, j'ai compris pourquoi il n'avait pas mis le rayon, c'est que le rayon, il existe. Il suffit de regarder le tableau à l'aube, d'ouvrir la fenêtre. Et c'était prévu depuis 1437. Tous les matins, il y a le rayon qui arrive en acte. Et donc l'annonciation a lieu tous les jours à l'aube. Il suffit d'être là pour le voir, sauf que le musée est fermé à ce moment-là. Les choses ne sont pas toujours bien faites. Et bon, ce Daniel Arras, ça il ne le dit pas. Hein, ça j'aurais adoré lui raconter ça, mais... cette découverte que j'ai faite avec plusieurs amis. Mais ce Daniel Arras, pour finir, hein, j'accélère comme à la télé, là, à la fin, il nous reste quelques minutes. Daniel Arras a traduit un livre prodigieux. Moi, si j'étais étudiant aujourd'hui, je me précipiterais, hein, qui s'appelle L'art de la mémoire, de Frances Yates. C'est une chercheuse britannique qui a travaillé sur une idée assez simple, qui est comment est-ce qu'on stocke l'entièreté du savoir. Alors aujourd'hui, on sait. Aujourd'hui, on est même, on se dessaisit nous-mêmes de notre mémoire, puisqu'il paraît que dans les ordinateurs, il y a tout, ou même, voilà, bon. Mais c'est un tort. Ce souci a toujours existé, je ne dis pas chez tout le monde, mais de tout temps. Et Frances Yates fait la généalogie, alors ça va jusqu'à après la Renaissance, sur la manière dont on a eu de regrouper le savoir dans sa tête et de le mémoriser. Donc l'art de la mémoire, ce n'est pas seulement des petits trucs mnémotechniques, c'est l'établissement, parfois ésotérique, parce qu'il y a Giordano Bruno, il y a Raymond Lull, c'est un livre tout à fait stupéfiant sur l'invention d'une image mentale qui, lorsqu'on ferme les yeux, relève d'une bibliothèque entière où on classe les livres qu'on a lus, on arrive par certains moyens à les ouvrir et on s'approprie pour toujours ce qu'il y a à l'intérieur et dont on peut disposer à loisir. Donc cette chose-là, qui s'appelle Internet, pardonnez-moi, c'est un peu vulgaire comme transcription, mais il se trouve qu'au Moyen-Âge, c'est déjà, elle le montre très bien, et elle écrit ce livre bien avant Internet. Enfin, c'est déjà non seulement un usage qu'on peut avoir de tous les savoirs, à une époque où, je dirais jusqu'à Goethe, un penseur ou une penseuse, c'était quelqu'un qui avait une prétention non arrogante à embrasser tous les savoirs. Aujourd'hui, il y a peu de gens sur Terre qui ne sont pas spécialisés. Enfin, on a abandonné l'idée d'être une encyclopédie. Mais à l'époque, c'est tout à fait quelqu'un comme Léonard de Vinci, comme on le sait, c'est pas juste un peintre. D'ailleurs, il est très peu peintre. C'est un architecte, c'est un ingénieur, c'est un poète. Enfin, il a toutes les sciences lui sont utiles. Et voilà, L'art de la mémoire, c'est un livre vraiment que je trouve stupéfiant. C'est Daniel Arras qui l'a réécrit en français, enfin traduit, et qui parle précisément de ça, d'une bibliothèque intérieure. Voilà. Je pense qu'on a tous notre bibliothèque intérieure. Et au fond, je suis un peu en train de vous dévoiler l'une des chambres de cette bibliothèque, parce qu'il y en a plein d'autres, des livres. Il y a des livres inutiles aussi, des livres qu'on oublie, mais ceux qu'on n'oublie pas, vous voyez, on peut en parler comme ça. Moi, je n'ai pas de notes. Ils sont gravés, au fond. Il y a des pages même qui sont là pour toujours. Et alors, pour finir, pour moi, c'est le livre des livres. Je trouve prodigieux et je fais attention parce que c'est l'exemplaire de la bibliothécaire en personne. Voilà, c'est un livre qui n'est pas un livre, et à la manière de Borges, c'est un livre qui contient tous les livres. C'est un livre de Abby Warburg, ça s'appelle L'Atlas Mnemosyne. Ça n'est jamais paru de son vivant comme ça. Et pour cause, c'est un dispositif. Cet homme était le Abby Warburg, comment dire ça, un personnage prodigieux, passionnant. C'est un type vraiment très fêlé, qui a été soigné par Binswanger pour psychose. Enfin, c'était un schizophrène. Mais aussi quelqu'un qui avait quand même toute sa tête en même temps. Et c'était le fils d'une très grande famille de banquiers à Hambourg, très riche. Et quand le père est mort, enfin le père qui avait constitué comme ça le réseau bancaire, ça me fait penser aux Médicis. D'ailleurs, il s'identifiait aux Médicis. Il était obsédé par ça, par la Renaissance italienne, par Firenze. Et donc, quand le père est mort, il a donné sa fortune à ses deux fils. Et lui a dit à son frère, tu prends tout l'argent. Moi, je ne sais pas m'occuper de ces choses-là. Ce genre de type, ce n'est pas remplir un formulaire. Enfin, j'ai de la sympathie. Mais il lui a dit à son frère, on va signer un papier comme quoi, dès que j'aurai envie d'un livre, c'est toi qui l'achèteras. L'autre s'est dit, bah oui, ok. Sauf qu'il n'a pas eu envie d'un livre, mais de tous les livres. Et moyennant quoi, l'autre y gagnait quand même. Mais il a renoncé à son héritage pour constituer une bibliothèque la plus grande d'Europe au début du XXe siècle. Bibliothèque qui, lorsque les nazis ont commencé à leur œuvre, leur contre-œuvre plutôt, bibliothèque qui a été entièrement démantelée à Hambourg et qui a été reconstituée à Londres, et où on peut aller travailler. Des penseurs comme Giorgio Agamben, etc., sont allés là-bas travailler. Et alors, il avait ceci de particulier, que c'est quelqu'un, il fait partie de ces intellectuels qui n'ont rien contre l'image. Il y a quand même ce préjugé dans la pensée, au moins occidentale, sur le fait que la lettre précède toute image et que, bah, quand même, les livres, c'est sérieux, mais les films, c'est pas tellement sérieux. Et l'iconographie, c'est secondaire. Warburg, au contraire, va déployer sa bibliothèque de manière circulaire avec des panneaux où il va épingler des reproductions de l'art antique jusqu'à l'art comme ça post-Durer, enfin bon, c'est principalement l'art allemand et grec, enfin vous savez que les Allemands se prenaient pour des Grecs, enfin Nietzsche ça lui est monté passionnément à la tête, et bref, il va fonder une science qui n'en est pas une, qui est l'iconologie. Quelqu'un comme Gombrich, enfin il y en a plein maintenant qui travaillent là-dessus, c'est Warburg qui ne s'est jamais exprimé que par conférence et par note. Il n'y a pas vraiment d'œuvre de Warburg. En cela, il est très, très moderne. Enfin, c'est un homme du fragment, enfin, de l'inachevé. Et alors, à sa mort, on a, mais je n'ose pas le montrer parce que je vais le casser, enfin, on a récupéré les panneaux où il passait des heures passionnées à faire des analogies entre, par exemple, pour vous donner un exemple précis, qui est un de ces exemples, ce qu'il appelait la survivance. Je ne sais plus comment c'est en allemand. Il y a toute une théorie de la survivance des images à travers le temps. Par exemple, quand il allait à Santa Maria Novella, je ne sais pas si vous voyez cette église juste à côté de la gare de Florence, il voit une fresque de Ghirlandaio, et à un moment, il y a une servante qui, très étrangement, a l'air de danser. En fait, elle apporte un... quelque chose sur un plateau. Elle a une écharpe qui vole au vent. Et c'est dans une chambre où il y a une femme qui est en train d'accoucher. On ne voit pas tellement le rapport, enfin, mais on se dit tous en la voyant, cette servante, qu'elle est très belle, enfin, il y a quelque chose, une forme de légèreté, gracieuse. Et Warburg a reconnu en elle la nymphe extatique, coupeuse de tête, d'une frise de bacchantes qui sont en ce moment au British Museum et qui vient de la Grèce archaïque. Et donc ce type, qui avait tout, qui à un moment du temps a été en possession, je dirais, oculaire de tout ce qui pouvait se voir et se reproduire, avait cette mémoire-là dont je parlais tout à l'heure, pour identifier comme ça les reprises, les calques. Vous savez, les peintres, les sculpteurs travaillent comme ça. Le Caravage refait aussi des choses qui ont été juste dessinées avant. Et donc, il a vu que ce qu'on appelle la Renaissance italienne, en fait, mais on le sait maintenant très bien, peut-être pas tellement avant Warburg, enfin un petit peu comme ça, mais c'est une reproduction, non pas à l'identique, mais déplacée, de ce qui se sculptait dans la Grèce antique. Donc une servante peut être, de manière cachée, une bacchante. Et donc voilà, ces cartes postales, ces reproductions, etc., ont constitué ce qu'il appelle une science sans nom, dont je suis un adepte, secret, et plus tellement secret, puisque je viens de vous le dire, et science à laquelle je vous convie, si vous en avez envie, voilà, en lisant l'Atlas Mnemosyne d'Abby Warburg. Et je crois que j'ai parlé de tous les livres, et donc je vous remercie beaucoup pour votre attention.